Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Olivia au 39-21. Bonsoir Olivia.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Olivia et quel âge avez-vous?
Je viens de Belgique et j'ai 23 ans.
De Belgique. Alors on en profite pour saluer tous nos amis belges qui sont nombreuses et nombreux à nous écouter chaque soir. Qu'est-ce qui vous amène, ma chère Olivia? Dites-moi.
Je viens pour vous raconter mon histoire d'amour avec un mythomane.
Avec un?
Un mythomane.
Un mythomane, d'accord. Est-ce que vous téléphonez sur des oreillettes ou est-ce que vous avez un dispositif ou vous parlez dans le téléphone directement?
Je parle dans le téléphone directement.
D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on vous écoute, Olivia. Ce mythomane, vous l'avez rencontré où et dans quelles circonstances?
Eh bien, je l'ai rencontré à l'école, en secondaire.
Oui.
Et on s'est mis ensemble lorsqu'on avait 16 ans. Donc, l'histoire a duré un peu plus de 7 ans.
Oui.
Et au début, tout se passait très bien. Hein. Sauf que dans le tableau, le tableau est vite venu s'assombrir parce que sa maman est extrêmement présente. C'est une mère castratrice qui décide toujours de comment les choses doivent aller. Donc, dès que ça ne va pas dans son sens, disons qu'elle s'énerve très fortement et donc ça va pas et donc à force j'en ai un peu marre parce qu'évidemment à 16 ans bon voilà, après on a grandi et à un moment donné j'en avais un peu marre de suivre les règles de ma belle-mère quoi.
Oui, votre belle-mère
et, ma belle-mère, oui. Mmh. Et donc avec ce garçon, ben, on était fiancés aussi, on s'est fiancés.
Oui.
Et encore récemment, en 2019, elle l'obligeait à partir avec en vacances, en famille. Donc, c'était une obligation. Voilà, donc, vu qu'il était soumis et qu'elle utilise ses pouvoirs comme castratrice, ben, il ne sait pas dire non. Et donc, du coup, ben, c'est la dernière fois que je suis partie avec en vacances au GCB, parce que moi, je n'acceptais pas ça, parce que, bon, avec mon âge, quand même, sur nos 22 ans. Bah, je trouve que partir en vacances avec la belle famille à un moment donné,
oui.
Voilà.
On est à 22 ans, vous avez raison. Oui.
Ouais. Et donc, du coup, c'est la dernière fois que je suis partie en vacances avec eux. Ensuite, on m'a annoncé que j'allais devoir être opérée. Donc, ça s'est annoncé d'une assez longue convalescence. Et après est arrivé début 2020, le Covid.
D'accord.
Et là, on a pris la décision de prendre les distances parce que, bon, comme on sait, le Covid, au début, on ne savait pas, on était un peu sceptique, on ne savait pas comment ça allait tourner et tout ça. Donc, pour notre protection, et vu qu'il fait quand même un métier à risque, on s'est dit, on va prendre du recul, on va attendre de voir comment ça tourne. Et là-dessus, au plus les semaines passaient, au plus il me disait qu'il ne se sentait pas bien. Et puis, je l'ai poussé à aller faire un test. Test qui s'avère positif au Covid, et les semaines qui suivent, ben évidemment, son deuxième test est toujours positif, le paracétamol ne fait pas effet, donc moi je m'inquiète quand même pour lui, je lui dis ce serait bien que tu aies quand même passé d'autres examens, que tu contactes ton médecin et tout ça.
Oui.
On arrive le 1er juillet 2020, et là, il me dit qu'il doit être hospitalisé, que les tests sont pas bons.
Qu'il doit là, être hospitalisé carrément?
Ouais, ouais, hospitalisé à cause du Covid. Donc, unité Covid, ben, on sait qu'on ne peut pas recevoir de visite. Voilà, il me dit que son état n'est pas bon, qu'il est placé sous perf, qu'à un moment donné, l'état s'améliore un peu, mais il y a toujours de l'inflammation dans un des deux poumons. Donc, du coup, il me dit qu'on doit lui passer une perf en intra dans le poumon. Enfin, tous les détails et les médicaments qu'il reçoit. Plus tard, les semaines qui suivent, il me dit qu'il attrape un problème au rein, que c'est un problème sous-jacent, mais que ça s'est accentué suite au Covid. Il a étalé quand même à aller faire l'usage de ses jambes, parce qu'à force d'être allongé, ben voilà, ça n'allait plus. Moi, je me rappelle, une fois l'avoir eu au téléphone, il était en pleurs vraiment au téléphone. Moi, je m'inquiétais énormément pour lui. Et comme quoi, il était tombé de son lit, qu'il allait aux toilettes, qu'il rampait, qu'il ne savait pas appeler l'infirmière parce qu'il n'arrivait pas, et voilà. Et donc, du coup, là-dessus, il m'a dit qu'il avait été embarqué faire une radio, qu'il avait une station de l'épaule, qu'il fallait faire des soins et tout ça. Qu'en parallèle, on continuait quand même, le kiné continuait à venir dans sa chambre en unité Covid pour faire ses soins et pour faire un peu de rééducation. Et puis, après un certain temps, il a été testé négatif. Et là, le problème a commencé à se poser. Mais tout ça, c'est après 3 mois d'hospitalisation. Donc moi, j'ai fini son hospitalisation et tout ça. Et vu qu'on ne savait pas trop où en était le Covid à ce moment-là, je prenais des notes tous les jours de ce qu'il recevait, quels médicaments il recevait, à quelle heure il les recevait et tout ça. Et après 3 mois, après qu'il m'a dit qu'il était testé négatif, soi-disant, il n'y a plus place dans d'autres services, par exemple dans le service de rééducation, pour pouvoir le transférer. Donc, il est obligé de rester en unité Covid, là où on ne peut pas recevoir de visite. Parce que moi, évidemment, après 3 mois, on était fiancés, j'avais envie d'aller le voir. Quoi. Et donc, du coup, ma maman, qui est proche de moi, dit, je vais quand même téléphoner, parce qu'en parallèle, il m'a dit que ses parents lui avaient tourné le dos et tout ça, qu'il s'était disputé avec eux et qu'il ne prenait pas trop de ses nouvelles.
Oui.
Donc, du coup, ma maman téléphone à l'hôpital. Et en demandant un peu c'est quoi ça fait, pourquoi il n'est pas rapatrié dans une chambre, pourquoi on est en unité Covid alors qu'il était négatif. Et à ce moment-là, à l'hôpital, on dit à ma maman au téléphone qu'il n'a jamais été hospitalisé.
Non.
Et que la dernière fois qu'il a été hospitalisé, c'était il y a une dizaine d'années. Donc là-dessus, moi, on n'y croit pas. Enfin, ça semble réel, on suit son hospitalisation depuis 3 mois. Tous les médicaments qu'il subit, enfin voilà, c'est un peu, mais moi, je me suis fait du souci pour lui parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là le Covid
sûr,
en début
sûr.
2020. Enfin, il aurait pu très bien passer l'armadon, je ne savais pas, c'était un peu inconnu, quoi.
Oui.
Et là-dessus, ben, on y croit pas, on se dit, il doit faire une erreur, le gars à l'hôpital, c'est pas vrai, quoi. Et donc, du coup, on sait que, avec le métier qu'il fait, il doit passer à tel endroit, à telle heure. Pour aller au travail. Donc, du coup, normalement, on va se poster là, sur un parking, et on se dit, si il est vraiment à l'hôpital, il ne passera pas. Quoi. Et là, dans la voiture qui passe, je vois sa mère. Donc, je me dis, ouf, soulagement, il est bien à l'hôpital, je me suis trompée. Et à ce moment-là, en plus, pendant que j'étais sur le parking à attendre, je l'avais encore par SMS, où il était en train de me dire, je suis en train de passer un examen pour les reins, je me renseigne pour changer de chambre, avoir une chambre double et tout. Et donc, du coup, sa maman passe en voiture. Là, je dis, OK, c'est bon. Et là, moi, ma maman, me dit, écoute, on va encore attendre 5 minutes. Et là, on a attendu 5 minutes. Et malheureusement, une deuxième voiture est arrivée. Et là, c'était son frère qui conduisait. Et lui, était à côté. Et là, encore, du coup, je lui téléphone. Je lui dis ce que je viens de voir. Là, de nouveau, il me prétend que non, qu'il est à l'hôpital, qu'il ne saurait pas être là, que c'est son frère qui a ramené un copain, que j'ai dû me tromper, tout ça. Donc, après, entre guillemets, je suis chez lui. Là, il s'est de nouveau planqué dans la voiture. Donc, je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais après 10-15 minutes où j'ai pas vraiment été au téléphone, parce que je sais quand même comment le prendre en 7 ans, et donc, du coup, il a fini par craquer. Après 15 minutes. Et là, il m'a ouvert la porte de chez lui. Et donc, du coup, là, il se recroqueville comme un enfant de 5 ans sur lui-même. Il me dit, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, je veux pas être interné, je suis pas tout juste. C'est moi-même, déjà, je suis étonnée de le voir là debout, parce que le bourrage des crânes sur 3 mois, c'est pour moi, ici, il est à la limite en chaise roulante, il sait plus marcher. C'est déjà étonnant, quoi. Et c'est un choc. Et donc là-dessus, je discute un peu avec lui, je suis un peu perdue et déstabilisée. Et là-dessus, son père rentre chez lui. Et là, je m'en vais parce que moi, en attendant, j'avais plus vu ses parents depuis 1 an.
Oui.
Mais donc, du coup, ça traîne. Et donc, du coup, je lui dis, je te laisse voir ça avec tes parents, il faudrait peut-être leur dire quoi. Et donc, du coup, moi, je rentre chez moi, là-dessus, ça traîne. Ma maman décide de téléphoner à sa mère Ali. Elle le prend de haut, voilà, et tout ce qu'elle a su faire, c'est m'incriminer moi en disant qu'elle m'avait plus vu depuis 1 an, qu'elle croyait que c'était fini entre lui et moi, donc apparemment il a été dit chez lui que c'était fini. Et là-dessus, elle a raccroché le nez, elle était hyper énervée, et donc elle lui a gueulé dessus comme un chien en culpabilisant d'avoir encore des contacts avec moi. Et depuis, elle a raccroché. Et le lendemain, il m'avait dit que lui viendrait. Et lui a coupé tout réseau, entre guillemets, impossible de le joindre. Donc le lendemain, moi, dans un état pas possible, sous le choc, après avoir appris ça, parce que psychologiquement, c'est quand même...
Je veux bien vous croire, c'était quand même votre fiancé. Donc il vous mentait,
oui,
en fait, il vous mentait honteusement.
Ah oui, et le plus de 7 ans, il y a énormément de détails, quoi. Et qui m'a avoué par la suite qu'il avait fait des recherches sur Internet, dans des bouquins, pour rendre son récit plus plausible et tout ça, quoi.
Pourquoi, pourquoi il vous montait, à votre avis, comme ça? Pourquoi, pourquoi
moi,
oui, à cause de sa famille?
Je pense que pour maintenir le lien avec sa famille et avec moi en même temps, quelque part, il continue à vivre sa vie de famille comme sa mère le voulait, avec le boulot parce qu'il travaillait dans l'entreprise familiale. Et quelque part, pour garder le lien avec moi, je pense que c'est ce qu'il a fait, oui. Après, sa famille à lui, le voit sous un autre angle, comme quoi il a inventé tout ça parce qu'il n'osait pas me dire que c'était fini. Ça, c'est la solution qu'eux voient,
oui,
sur les 10 qu'il a été dire. Après, on a encore vécu plein de choses après, qui, pour moi, et connaissant sa mère et sa famille, je pense que clairement, il a raconté ça pour maintenir le lien et pas devoir choisir et pour, entre guillemets, garder les deux côtés avec lui, quoi.
Mais d'accord.
Ça, c'est mon avis. Après, le lendemain de cette histoire-là, du coup, vu qu'il venait pas signer de vie, on a contacté sa mère, et là, elle l'a pris de haut en disant « Nous ne sommes pas disponibles avant mardi, si discussion il y a, et Julien ne viendra pas. » Ok, donc moi, je suis là, je pourrais pendant 3-4 jours, jusqu'au moment où il finit par ressusciter. Il ressurgit, il rallume son téléphone, il me dit qu'il se sent honteux, qu'il ne comprend pas pourquoi il a fait ça de nouveau, mais que ses parents ne toléreraient pas notre relation et qu'ils étaient contre, et que voilà. Et là-dessus, il me dit on peut rester ensemble, mais il faut le voir en cachette. Donc, déjà, là, j'étais sceptique. Et je dis bon, par amour, je l'ai pardonné, et ça, je sais que beaucoup de gens ne me comprennent pas après cet épisode du Covid, mais j'étais influencée, j'ai mis ça sur le compte de sa mère. Donc, du coup, je dis oui, le pauvre et tout ça. Et donc, je l'ai repris. Et un temps, jusqu'en janvier, on s'est revu entre guillemets en cachette. Donc, il tankait sa voiture pour venir chez moi et tout ça. Et il vient presque tous les deux jours, quoi, hein, en racontant n'importe quoi chez sa famille, en disant qu'il avait des rendez-vous professionnels et tout ça. Donc, connaissant sa mère, je lui ai laissé l'opportunité de faire ça. Et en contrepartie, il m'a dit, on va chercher un appartement pour se mettre en ménage. Donc là-dessus, on commence les visites d'appartement, rentrer des candidatures et tout ça. Et en janvier 2021, ouais, c'est en 2021, j'ai quand même poussé, parce que moi, j'en avais marre, après, vous savez qu'on était quand même fiancés, ça faisait quand même 7 ans. Je me dis, j'en ai marre d'être la femme cachée, de devoir m'abaisser dans la voiture si on croise quelqu'un de sa famille. Je veux dire, c'est pas une vie, quoi.
Bien sûr.
Et du coup, là-dessus, il m'a dit qu'il... Au début, il voulait pas. Il voulait pas, donc je l'ai poussé. Il m'a dit que pour finir, il avait dit la vérité à ses parents, que maintenant, il assumait pleinement notre relation et que sa mère, elle avait qu'à s'y faire et que c'était ses choix et qu'il imposait ses choses. Et donc, on continuait les visites d'appartement, sauf que les visites d'appartement, de temps en temps, elles sautaient. Et puis, les candidatures étaient toujours refusées. Et puis, un coup, l'appartement était loué. Et puis, il y avait toujours quelque chose. Et donc, du coup, ça continue comme ça pendant 2 mois. Jusqu'en août, ici, en 2021, ou 2021, là, de nouveau, il me ment en disant, parce qu'on devait aller voir un cinéma en plein air. Et donc, là-dessus, il me ment en me disant qu'il est malade. Et de nouveau, il y avait certaines incohérences qui ne collaient pas. Ça ne collait pas, quoi, ce qu'il me disait. Et donc, du coup, de nouveau, ma maman, parce qu'elle avait toujours des doutes depuis l'épisode du Covid, malgré que moi, je lui avais pardonné et que j'arrivais à lui faire confiance, ou je n'aurais clairement pas dû, hein, soyons d'accord, elle lui a dit, si tu es vraiment malade, monte-toi à la fenêtre de chez toi, que je vois que t'es bien chez toi, quoi, parce que ça collait pas. Et là-dessus, il s'est jamais montré. Et puis, là, de nouveau, commencé à paniquer, en avouant qu'il était à la mer pour le boulot.
Pour le boulot
Pour le boulot, oui. Mais dans la profession qu'il fait, c'est tout à fait possible. Mais le souci, c'est que par la suite, après, on m'a appris qu'en fait, il était parti tranquillement en famille pendant une semaine. Alors que le jour même où on devait aller au cinéma en plein air, il était à la mer et qu'il me disait encore « je viens te chercher à quelle heure ?» et tout ça. Quoi, hein. Alors qu'il sait pertinemment qu'il va annuler aux dernières minutes en me disant qu'il est malade et que... Enfin, il mentait constamment. Quoi. Et après, il revient, de nouveau, après cet épisode de la mer, on discute et tout ça. Et là, je lui dis, écoute, parce qu'entre-temps, il m'avait avoué qu'en fait, il n'avait jamais avoué la vérité à ses parents en janvier, quand il m'avait dit qu'il avait posé ses choix et tout ça. C'était pas vrai. Donc, à ce moment-là, je lui dis, écoute, non, ça ne peut plus durer, ça va faire un an, on se voit en cachette, ils ne sont pas au courant, je veux dire, ça, c'est plus possible. Donc, Julien, tu te dis, quand, si on tend une perche chez toi, tu te dis que tu es venu chez moi la veille. Et ce jour-là, on était le 7 septembre 2021. On était en terrasse. Et donc, c'est le lendemain que c'est terminé et que j'ai plus jamais de nouvelles. Le lendemain après-midi, je vais venir. Et là, je reçois un SMS qui me dit, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je dois avoir une discussion sérieuse. Ne t'en fais pas, d'accord, ça va aller. Et puis, plus de nouvelles. Et 2 heures après, j'ai sa mère, son frère et sa cousine qui débarquent chez moi en tapant dans la porte, en sonnant, vraiment très violemment. Et d'abord, on voit que sa maman derrière la porte. D'abord, on n'ouvre pas parce qu'on me dit « fais-moi confiance », machin. Je dis, voilà, en sachant qu'ils ne sont pas tout juste, il va y avoir quelque chose, quoi. Donc, je lui fais confiance, on n'ouvre pas. Mais après un quart d'heure, bon, ils laissent leur doigt appuyer sur la sonnette. Il continue à taper dans la porte, ça énerve le chien, donc à un moment donné, ma mère décide d'aller ouvrir. Moi, je me suis cachée, entre guillemets, enfin, je me suis éloignée parce que je ne me sentais pas de taille d'avoir affaire à elle. Et au moment où ma maman ouvre la porte, c'est son frère. Donc en fait, le frère et la cousine s'étaient planqués plus loin. Et en fait, ils étaient trois, quoi. Bon. À venir nous agresser chez moi. Et lui n'était pas là. Évidemment, il est resté comme un enfant planqué chez lui. Et là-dessus, ils ont dit des choses à mon sujet qui étaient quand même terribles, que lui avait été dit que j'étais une connasse, que je la harcelais, qu'il était sous mon emprise, qu'il ne voulait plus être avec moi. Mais
alors en fait, que, au bout du compte, en fait, ma chère Olivia, parce qu'il nous reste peu de temps, est-ce que vous avez eu au moins une explication avec lui pour au moins savoir si à un moment... Il a décidé à arrêter de mentir et enfin vous révéler pourquoi il était comme ça et de quoi il avait peur. Et est-ce que vous avez eu une vraie explication avec ce garçon au bout du compte? Parce que
non.
Jamais.
Non, il m'a envoyé. c'est comique, non, d'un point de vue extérieur, on va dire que c'est limite. Il m'a envoyé un mail parce que en me disant, entre guillemets, toutes des bêtises qui ne sont pas vraies. Et il se limite à la relation, enfin, au moment où il a dit à ses parents que c'était fini entre nous. Donc, il a gommé tout ce qu'il y avait après. Donc, la recherche d'appartement, le Covid, il s'est arrêté en 2019 quand il avait fait dire à sa famille que c'était fini entre nous, avec des choses de nouveau fausses dans ce mail. Ensuite, moi, j'ai essayé d'avoir des nouvelles par la suite, que je n'ai jamais eues. Donc, il m'a envoyé une lettre recommandée par la poste. Donc, je l'ai recommandé chez moi avec une lettre écrite à la main après 7 ans de relation, quand même. De nouveau, une lettre qui raconte n'importe quoi et qui m'apporte aucune réponse. Donc, moi, j'ai essayé encore de le contacter, mais il reste aux abonnés absents. Il a changé de numéro de téléphone et voilà. Mais pourtant, j'attends que ça, pouvoir l'avoir en face de moi et lui demander clairement l'avoir entre 4 yeux. Mais c'est pas possible parce qu'il assume pas, il prend la fuite.
Oui, c'est un garçon totalement immature.
Ouais.
C'est fou parce que vous vous connaissez depuis longtemps, c'est dingue. Pour vous,
ah ouais, on
pour,
fait vous énormément de choses.
Pour vous, en fait, parce que Jérôme au 739-21 nous dit ce n'est pas de la mythomanie, c'est juste un fiefé menteur dont vous devez vous méfier, mais il avait quoi? Il avait simplement peur de sa mère ou qu'est-ce qu'il avait? Il avait une peur bleue de sa mère au final ou de toute la famille?
Je pense que c'est sa mère, c'est sa mère. Mais moi-même, des fois, elle me fait peur parce qu'elle est imposante et elle crie tellement fort que voilà. Mais si, il y a en partie le fait qu'il a peur, mais il y a de la mythomanie, bien sûr. À ce point-là, c'est de la mythomanie. Et quand on sait mentir, mais dans des états de transe, en vous regardant droit dans les yeux, c'est de la mythomanie pure, bien sûr.
Oui, c'est de la mythomanie, mais en même temps, bon, oui, c'est de la mythomanie, mais pas de la mythomanie... Vous voyez, il y a des gens qui... La mythomanie, ce sont vraiment des gens qui mentent pour tout et rien. Vous voyez, ce ne sont pas obligatoirement des gens qui sont guidés par un sentiment de peur. Là, si vous voulez, on a affaire à un garçon. Je pense que ça n'est pas vraiment de la mythomanie, moi. Je pense que c'est un garçon qui n'a pas coupé le cordon avec sa maman. Hein, et une mère, sans doute, comme vous nous l'avez décrit, très possessive. Une mère qui est vraiment là, sur son garçon, et qui... Bah comme vous la connaissez l'histoire, hein. Vous êtes une grande fille maintenant, des mamans qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée d'une jeune femme dans la vie de leur garçon. Bon, cette histoire, elle remonte à la nuit des temps. Moi, je pense que ce garçon, il a plus un problème de maturité qu'autre chose, et non de mythomanie. Parce que vous l'avez connu, ce garçon, avant, il n'était pas mythomane. Vous vous seriez rendu compte qu'il était mythomane, vu que vous l'avez connu à 16 ans. Vous vous rendez compte ? À 16 ans, vous auriez vu que c'était un garçon. Généralement, les mythomanes vous inventent des histoires pas possibles. Et c'est pour souvent se mettre en avant, ou c'est souvent pour se mettre en valeur. Alors que là, finalement, pas du tout. C'est, ce garçon, il avait peur de vous révéler la vérité par peur de blesser sa mère. Et c'est tout à fait autre chose, je pense vraiment, parce que je vois que vous avez... écrit un livre là-dessus, c'est ça ? Vous avez autoproduit Sous l'emprise d'un mythomane aux éditions Maya. Ce sont des éditions, les éditions Maya, ce sont des éditions belges ?
Françaises, parisiennes.
Françaises, d'accord. Et eux sont d'accord avec le terme de mythomanie ? Ils étaient d'accord avec ce terme-là ? Ah ouais. Moi, je pense plutôt que le mensonge, il a été provoqué par la peur, vous voyez, la peur de décevoir la petite maman, la peur de sa mère, tout simplement. Et après, donc, invention de tout un tas de mensonges plus gros les uns que les autres, en plus pouvant vous plonger, vous, dans l'angoisse. Je pense plutôt que vous avez été sous la coupe d'une belle-mère qui a manipulé tout le monde, et en premier lieu, qui a manipulé son fils, pour qu'il vous mentent comme ça. Qu'en pensez-vous ?
Bien sûr, ils mentent à eux aussi, mais ils mentent à tout le monde.
Est-ce que vous l'avez vu mentir à des copains pour, voyez, dans la vie courante, est-ce que vous l'avez vu inventer des trucs devant vous et vous vous êtes dit, non mais là, il tourne pas rond, qu'est-ce qu'il raconte ? Est-ce que ça vous est arrivé, ça ?
Le souci, c'est qu'on ne présentait pas beaucoup de monde. On était dans une relation à deux. Et donc, du coup... À part dans sa famille ou dans la mienne, on n'a pas eu l'occasion d'avoir d'autres vraiment de contacts. On est dans une relation très fermée, qui n'était pas l'idéal non plus, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, et je sais qu'il a commencé à mentir, et ça, je sais que la mythomanie peut être due aussi à un choc qu'il aurait pu vivre, qui est, selon moi, le décès de son grand-père, qu'il n'a jamais accepté.
Oui. Enfin, je pense, de toute façon. Vous savez, c'est un garçon qui a de toute façon un gros problème de maturité, et de mon point de vue, il va falloir qu'il règle ça avant d'entamer la moindre relation avec qui que ce soit. En tout cas, vous avez écrit un livre qui s'appelle Sous l'emprise d'un mythomane, c'est aux éditions Maya, ma chère Olivia, et on vous remercie pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On mettra bien évidemment toutes les références de votre bouquin sur notre groupe de parole de la Libre Antenne. On vous embrasse bien fort, Olivia.
Merci.
Au revoir, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir. Merci, au revoir.
La Libre Antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS.